Session sur la procréation à Rimont. 26 février 1990, deuxième cours par le frère Renaud. La position de saint Thomas sur l'animation de l'embryon.
Alors, on a quelques textes à vous passer. En principe, il devrait y en avoir une feuille pour deux, je pense. Ou pour trois. Alors, se poser le problème de l'animation de l'embryon chez saint Thomas, ça suppose de se poser une première interrogation, c'est qu'est-ce que c'est que la génération pour saint Thomas, qu'est-ce que c'est que la génération des corps naturels ? Et une seconde interrogation qui est le comment la génération ? Comment se passe la génération humaine ? Alors, l'interrogation sur le qui est-il la génération, qu'est-ce que c'est que la génération, conduit à la réponse que, en raison du fait que l'âme est forme substantielle du corps, sa création implique qu'il y ait un corps organique, un corps suffisamment disposé pour pouvoir être immédiatement déterminé par cette âme. Donc Dieu ne peut créer l'âme humaine, forme substantielle du corps, que dans un corps déjà organisé, que dans un corps déjà disposé. Et alors ce problème-là, qui est lié au lien substantiel qu'il y a entre la forme et la matière, nous le traiterons dans une deuxième partie, ce sera frère Didier Marie. Et dans un premier temps, on va regarder le comment de la génération, donc comment la matière progressivement va être disposée pour recevoir l'âme spirituelle. Comment ça va se passer? Et donc ça c'est la première partie. Alors pour comprendre le pose de la génération chez saint Thomas, on a besoin d'Aristote. Parce que saint Thomas fait constamment référence à toutes les observations, à toutes les nombreuses expériences qu'a fait Aristote et qui donne dans le livre sur la génération des animaux. Mais en même temps, on a besoin de saint Thomas, parce que quelquefois, Aristote, pour nous, c'est un peu confus, et donc on a besoin de l'intelligence de saint Thomas, qui a su déceler les choses fondamentales et importantes chez Aristote. Donc en fait, il faut tenir les deux, quoi. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ils utilisent tous les deux un ordre différent. Parce que saint Thomas est théologien, donc il va regarder les réalités naturelles en tant qu'elles se rapportent à Dieu. Or, l'homme se rapporte principalement à Dieu par le point de vue de son âme spirituelle. Tandis que Aristote, le philosophe, n'a pas d'intention précise quand il regarde la réalité. Il la regarde en tant que telle, les créatures telles qu'elles sont. Alors, avant d'attaquer donc le comment de cette génération, il faut se demander, mais après tout, après la conférence qu'on a eue hier, est-ce que c'est vraiment très intéressant de se poser tous ces problèmes, d'essayer d'étudier comment Aristote et saint Thomas, il y a de nombreux siècles, ont essayé de comprendre le comment de la génération. Est-ce qu'après tout, ce n'est pas remuer des vieux meubles qui ont très peu d'intérêt, ou un intérêt seulement archéologique aujourd'hui, quoi. Eh bien, ce qui est très frappant, c'est que, au début, on dit que c'est complètement différent de ce que nous donne la science actuellement, ça n'a rien à voir. Puis quand on creuse, on se rend compte qu'il y a beaucoup de points communs. On ne peut pas trouver directement de contradiction. Il y a beaucoup de points qui se rejoignent. Par exemple, ce que disait le professeur hier sur la parthénogénèse, Aristote, ça, il en parle, et il l'explique. Et puis, par ailleurs, Et là, ça rejoint ce que disait Martin sur ce que soulignaient les auteurs de l'article de la revue Esprit, disant « Mais est-ce qu'il faut pas, est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait davantage une alliance entre philosophie et science ?» Ce que saint Thomas et Aristote peuvent nous communiquer, c'est comment on peut se faire cette alliance aujourd'hui entre ce que donne la science et tout ce qu'apporte la philosophie, en particulier la philosophie de la nature. Est-ce qu'il n'y a pas un défi aujourd'hui pour le philosophe de regarder tout ce que donne la science à la lumière de ce qu'il découvre dans une philosophie de la nature, à la lumière des notions de nature, de nature-forme, de nature-matière, d'agent et de patient. Donc là, je pense que pour comprendre cette alliance possible entre science et philosophie, Aristote et saint Thomas ont certainement un intérêt très grand, parce qu'ils nous montrent comment ça peut se faire, et les axes suivant lesquels peut se faire cette alliance. Donc pour étudier le comment de cette génération, on va le faire en plusieurs parties. D'abord, on essaiera de comprendre, pour Aristote et saint Thomas, quels sont les rôles respectifs du mâle et de la femelle. Ensuite, on essaiera de comprendre qu'est-ce que c'est que cette fameuse virtus formativa, cette puissance formative. Et ensuite, on essaiera de réfléchir sur la vie de l'embryon. Qu'est-ce que c'est que l'embryon avant qu'il ait reçu l'âme spirituelle? Quand il est dans toute cette période de formation, toute cette période de disposition progressive du corps en vue de recevoir l'âme spirituelle. Donc on va regarder maintenant le rôle respectif. Du mâle et de la femelle. Je vais vous lire ce petit texte qui correspond au texte 5 sur votre feuille, tiré de la génération des animaux, où Aristote nous dit « Voilà ce qu'indique la raison aussi bien que les faits. Car à considérer le problème en général, on ne voit pas une chose résulter du patient et de l'agent, avec l'agent immanant à cette chose. » ni d'une manière générale, résulter dans les mêmes conditions du mobile et du moteur. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que dans la génération humaine, on est face à un mouvement, à une transformation progressive de la matière. Or, le mouvement ne s'explique pas par lui-même. Il faut qu'il y ait un caractère extrinsèque au mouvement, l'agent, qui va communiquer un acte à un patient, acte que le patient ne possède qu'en puissance, et de cette alliance entre l'agent et le patient va résulter le mouvement. Vous voyez, il y a un agent qui communique un acte à un patient qui va permettre le mouvement. De même que, alors ce qu'il faut voir, c'est que pour comprendre le comment de la génération, il faut faire référence à notre expérience du facere, l'expérience artistique. Et Aristote et saint Thomas jouent toujours sur les analogies avec l'art, avec le facere. Donc, de même que l'artisan, qui joue le rôle de l'agent, va communiquer à la matière une détermination que la matière ne possède qu'en puissance. L'agent apporte au patient un plus, apporte au patient quelque chose que le patient n'a pas. Et alors, il est clair, voire évident pour Aristote et saint Thomas, que le rôle de l'agent dans la génération va être rempli par le mâle et la femelle va remplir le rôle du patient. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que... pourquoi faire cette distinction? Parce que, comme il est dit dans le texte, l'agent et le patient ne peuvent pas résulter dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une distinction de conditions et de nature entre l'agent et le patient. Puisque par définition, l'agent apporte un plus, il ne peut pas être identique au patient. Alors ça a des grandes conséquences parce que ça veut dire que la femelle ne peut pas engendrer toute seule. Parce que pour Aristote, la femelle apporte une matière, qu'il appelle les menstrues, mais dans cette matière, ne peut pas résider à la fois l'agent et le patient. Sinon, il y aurait une identité totale entre agent et patient. Donc, ça vient détruire, il n'y a pas de mouvement possible. Donc, il faut qu'il y ait un apport extrinsèque à cette matière. Et cet apport, c'est le mal qui va l'apporter par l'intermédiaire de la semence. Et alors, il est clair que le mal ne remplit pas le rôle du patient, parce que le mal, dans la génération, n'apporte aucune matière. Et ça relève de toute l'observation qu'a fait Aristote, en particulier sur la fécondation des œufs. Il montre que le mal n'a qu'une action qualitative dans la fécondation chez les ovipares, et n'apporte aucune matière. Donc maintenant, il s'agit de comprendre comment le mâle va remplir son rôle d'agent par rapport à la matière qu'apporte la femelle. Et donc là maintenant, c'est le problème de la virtus formativa. Je propose de lire le petit texte 9, tiré toujours de la génération des animaux, où Aristote nous dit « La semence est un résidu qui est animé d'un mouvement identique à celui par lequel le corps s'accroît à mesure que s'y distribuent les parcelles de la nourriture définitivement élaborée. Quand il pénètre dans l'utérus, il coagule et met en mouvement le résidu de la femelle en lui imprimant le mouvement dont il est lui-même animé. » Vous voyez, comment le mâle va agir sur la matière que fournit la femelle? En communiquant un mouvement. Et ce mouvement va entraîner, parce que c'est un mouvement ordonné, va progressivement disposer, organiser la matière que fournit la femelle. Et ce mouvement, le générateur peut le communiquer à la matière que fournit la femelle par l'intermédiaire de la semence. La semence va jouer le rôle de médiation entre l'agent et le patient. Je fais le rôle d'intermédiaire. Donc, il y a dans cette semence une capacité de mettre en mouvement la matière de façon ordonnée. Et cette capacité, cette puissance, cette virtus, c'est donc ce qu'on appelle la virtus formativa, la fameuse virtus. Alors, bon... Voilà un peu qu'est-ce que c'est que la virtus. Maintenant, on va essayer de mieux comprendre. Et pour ça, il faut revenir au facere. Dans l'expérience artistique, ça se passe comme ça. Il y a donc un artisan qui a un projet, idea. Et il va incarner ce projet, cette idée, dans une matière. Et pour cela, il va utiliser un instrument. Il va mouvoir un instrument, le menuisier avec son ciseau à bois qui va travailler le bois. Ça va être un instrument mu qui va pouvoir communiquer à la matière ce projet par l'intermédiaire de l'instrument nu. Et le mouvement de l'instrument dans la matière, il va résulter une chaise, un lit, je sais pas quoi, une table. Alors, la virtus, voyez, analogiquement, c'est l'instrument nu. La virtus, elle se situe à ce niveau-là. Là, donc, le générateur, qui possède la forme spécifique, vous voyez, qui correspond à l'idéa, et il communique sa forme spécifique à la matière que fournit la femelle, par l'intermédiaire de la virtus, qui joue ce rôle d'instrument. La virtus instrumentalis, comme l'appelle saint Thomas. Donc c'est là que se situe le rôle de la virtus. Alors, on va faire une objection à saint Thomas, enfin, du moins, il va poser en objection le fait que, bon, si on prend, par exemple, la génération du petit chien, on va dire, mais la virtus, elle-même, ne possède pas la forme spécifique du chien. Donc, on ne voit pas comment elle va pouvoir communiquer la forme du chien à la matière que fournit la femelle. Vous dites, mais comment est-ce que c'est possible qu'il en résulte un petit chien? Eh bien, c'est parce que, bon, saint Thomas, qui a beaucoup réfléchi sur le facere, voit que la virtus, c'est un instrument, et un instrument mu. Et voyez, quand l'instrument est mu, il possède une détermination qui est différente de la détermination qui est mise dans la matière. C'est pas la même, la motion qui est dans l'instrument, cette détermination est différente de la détermination, voyez, je ne sais pas comment dire, le mouvement qui est dans l'instrument n'est pas identique, c'est pas la même chose qu'une chaise, quoi. Et c'est ce que dit saint Thomas, la hache qui est mue, c'est pas la même chose que la forme du lit. Oui. Donc pour ça, c'est pas nécessaire, si on comprend de cette manière, que la virtus possède la forme spécifique, parce qu'elle n'est qu'un instrument. Elle n'est qu'un instrument relié à l'âme du générateur. Donc, elle est complètement relative à l'espèce que possède, en l'occurrence, le générateur. Et puis, alors, autre objection, c'est qu'on dit, mais, bon, on comprend, quand le menuisier travaille dans le bois, bon, il meut l'instrument. Mais il meut l'instrument parce qu'il a un contact physique avec l'instrument. Or, dans la génération, il n'y a plus de contact physique entre le générateur et la virtus. Une fois que la semence est émise, il n'y a plus de contact avec le générateur. Alors, comment on peut encore parler d'instrument? Tout simplement, saint Thomas qui a un bon sens, va parler de la flèche. Il va dire que la flèche, elle n'est plus en contact actuel avec l'archer, mais pourtant elle conserve l'impulsion qui a été mise par l'archer. Et tant qu'elle conserve cette impulsion, elle a un mouvement qui a été ordonné par l'archer, un mouvement qui dépend de l'archer. Il dit qu'il faut qu'il y ait un contact entre l'instrument et le moteur et l'agent au début du mouvement, mais ensuite c'est pas la peine que ça dure tout le mouvement, tant que l'instrument conserve cette impulsion. Maintenant, il faut regarder la vie de l'embryon. La vie de l'embryon avant qu'il ne reçoive l'âme spirituelle. Voilà, nous avons le texte 15, là, tiré de la génération des animaux, d'Aristote, où il nous dit que la semence est telle, et elle possède un mouvement et un principe de telle nature, que une fois ce mouvement arrêté, chacune des parties se forme et devient animée. C'est là où c'est important. Animée, car il n'y a pas de visage sans une âme, ni de chair non plus. Et après la mort, ce n'est que par homonymie qu'on parle de visage ou de chair, exactement comme si ces parties étaient devenues de pierre ou de bois. Alors ça signifie quoi? C'est-à-dire que donc vous avez la formation du corps de l'embryon jusqu'au moment où l'âme sera créée dans ce corps, c'est-à-dire le moment de la conception. Donc tout le rôle de la virtus formativa, ça va être, à partir de la matière que fournit la femelle, de disposer, d'organiser, de complexifier cette matière en vue d'en faire un corps apte à être déterminé par l'âme humaine. Donc comment ça va se faire, ça? C'est qu'elle va comme tisser, comme façonner des organes à partir de cette matière. Or, un organe, c'est essentiellement quelque chose de vivant. Vous voyez, c'est pas... Il dit bien, c'est que par homonymie qu'on parle Vous voyez, parler d'organe dans un cadavre, c'est un abus de langage, quoi. Parce qu'un organe, c'est quelque chose de vivant. Donc, si la virtus formativa, elle a pour rôle de former des organes, et qu'un organe, pour qu'il soit organe, il faut qu'il soit vivant, nécessairement, il y a vie dans l'embryon, avant de recevoir l'âme spirituelle. Vous voyez, la virtus formativa ne réalise pas une espèce de mannequin mort avec tout ce qu'il faut, puis tout à coup, quand Dieu crée l'âme, pouf, tout ça, ça se met en marche et ça fonctionne et il y a vie. Alors, bon, essayons de creuser davantage. Donc, au fur et à mesure que la virtus va organiser le corps, il va y avoir une série de générations et de corruptions successives. Il va y avoir des passages à des formes substantielles différentes. Vous voyez, c'est ce qu'il dit au début. Au début, ça sera que du sang. Parce que, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est que pour Aristote, lui, il n'avait pas connaissance des ovaires et de l'ovule. Pour lui, il y a la matière, la femelle fournit une matière semblable à du sang. Et la semence, la virtus, va agir dans cette matière. Donc, au début, il y a une action de la virtus à partir de cette matière tout à fait primaire que fournit la femelle. Puis ensuite, sous l'action de la virtus, il va y avoir un premier organe qui va apparaître, et simultanément la vie. Et Aristote dit que c'est nécessairement le cœur qui est le premier organe fabriqué, tissé par la virtus, parce que toutes les parties de notre corps dépendent du cœur. Donc il va y avoir un cœur qui va là, et donc simultanément une vie végétative, une vie tout à fait primaire. Et alors, ainsi de suite, au fur et à mesure du travail de la virtus, quand elle réalisera une organisation des organes qui vont permettre une vie sensitive, il y aura corruption de cette vie végétative primaire, et il va y avoir apparition d'un nouveau type de vie qui sera la vie sensitive, mais qui contient tout ce que possédait la vie végétative. Donc là, il y aura des opérations de vie sensitive et de vie végétative. Et c'est déjà, vous voyez, mais il faut faire attention que ce n'est pas un végétal, quoi. C'est déjà quelque chose d'humain. C'est une vie humaine, très, tout à fait incomplète, mais c'est un organe qui est en vue de l'âme humaine, quoi. Donc je corrige un peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour Aristote, il y a une vie commune au niveau du genre entre le stade de cette vie-là et la vie des végétaux, parce que c'est que des puissances de vie nutritive et d'accroissement. Mais l'organe, spécifiquement, c'est humain, quoi. Ça détermine, c'est une vie végétative humaine. Parce que cet organe, il est organisé, il est destiné à recevoir la détermination de l'âme spirituelle, de l'âme humaine, quoi. Et alors pourquoi dire que c'est une série de formes substantielles? Saint Thomas parle d'âmes successives. Alors là, c'est ce qui sera surtout développé dans la deuxième partie. C'est-à-dire que pour Saint Thomas et Aristote, à telle matière déterminée correspond telle forme. Donc, si je suis en présence d'une matière déterminée autrement, il y a une autre forme. Par exemple, là, on passe d'une vie uniquement d'ordre végétative, de puissance végétative, à une vie qui va impliquer puissance végétative et puissance de vie sensitive. Alors ça suppose donc une forme différente. Et ainsi, vous voyez, cette nouvelle forme apparente, il y a corruption de la forme précédente. Alors on pourrait dire, mais après tout, est-ce qu'il n'y a pas une forme substantielle au départ qui progressivement actue de plus en plus la matière ? Qui progressivement, ou plutôt, progressivement, elle s'acturait elle-même. Mais ça, pour Aristote, pour Saint Thomas, ça n'a pas de sens, parce qu'au niveau de la forme, il n'y a pas de puissance. La forme, elle est essentiellement acte, elle est essentiellement détermination. Alors c'est pour ça que, pour Aristote et saint Thomas, dire qu'il y aurait une âme au point de départ, dans cette vie tout à fait primaire, qui progressivement façonnerait le corps, l'organiserait, le disposerait à l'âme spirituelle, ça n'a pas de sens. Et puis saint Thomas dit, mais alors, bon, admettons qu'il y ait une âme dès le départ de vie végétative, mais quelle puissance de vie végétative va pouvoir rendre compte de cette formation du corps? C'est pas la puissance génératrice, puisque la puissance génératrice implique un organisme déjà parfait. Et en plus, la puissance génératrice, elle est non pas en vue de l'individu, elle est en vue de l'espèce, donc elle ne peut pas en rendre compte. C'est pas non plus la puissance nutritive, parce que la puissance nutritive, elle assimile la nourriture en vue de l'organisme actuel qui existe, et pas en vue d'un organisme plus parfait. Et c'est ni non plus la vertu, la puissance de croissance, parce que la puissance de croissance ne détermine pas des nouveaux organes. C'est juste un accroissement quantitatif. Elle ne rendrait absolument pas compte d'un perfectionnement, d'un changement d'espèce, vous voyez. Le passage à une vie supérieure. Alors, bon, autre problème, autre objection qui avait été soulevée, que pose saint Thomas, en particulier dans le De Potentia, mais qui reprendra, qu'il a déjà pris dans la Somme, c'est que, après tout, est-ce que l'âme de la mère ne pourrait pas rendre compte de ses puissances vitales, de ses opérations vitales qu'on constate dans l'embryon? Est-ce qu'on pourrait pas dire ça, quoi? Ben, pour saint Thomas, non. Parce que le propre du vivant, c'est de se mouvoir lui-même. Et donc, si on disait que les opérations vitales propres à l'embryon dépendent d'un principe extrinsèque, c'est contradictoire. Ça vient détruire la raison de vie, quoi. Le vivant étant par nature autonome, quoi. Puis en plus, vous voyez, donc ça voudrait dire que la mère communique ses puissances vitales à l'embryon. Et alors, ce que dit saint Thomas, c'est que à ce moment-là, ça n'expliquerait pas la nutrition de l'embryon. Parce que si elle communiquait sa puissance, sa propre puissance nutritive à l'embryon, et la nourriture, elle irait pour la mère, mais elle irait pas pour l'embryon. Et de même, on voit pas bien comment elle pourrait communiquer sa puissance sensitive à l'embryon, quoi. À ce moment-là, elle aurait les mêmes sensations que l'embryon. Alors, ça se saurait, quoi. Et puis, alors, autre problème, est-ce que la virtus ne pourrait pas rendre compte de ces opérations vitales? Est-ce que, après tout, ce moteur qui est présent dans cette matière ne pourrait pas en rendre compte? Eh ben non. Parce que la virtus, elle est relative à une puissance, qui est la puissance génératrice. Or, les puissances sont irréductibles les unes aux autres. Elles ont des objets complètement différents. Donc la puissance génératrice ne peut absolument pas rendre compte de la puissance nutritive ou des puissances sensitives, quoi. Donc pour saint Thomas, il est clair qu'il y a une âme imparfaite. Et ça suit une série de générations de corruption. Alors, bon, il faut que je m'arrête. Donc voilà un peu, bon, c'est une vision très rapide, un peu panoramique du comment de la génération pour saint Thomas et pour Aristote. Donc maintenant, ce qui reste à voir, c'est le fondement de tout ça. Pourquoi faut-il attendre que le corps soit suffisamment disposé pour qu'il y ait création de l'âme? Et ça, c'est mon éminent frère.
Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est les liens, plus particulièrement, c'est les liens qui existent entre l'âme et le corps. Et ce que veut dire saint Thomas quand il dit que l'âme est forme substantielle du corps. Alors, je vais tout de suite prendre pour démarrer un texte de saint Thomas dans la question disputée sur le De Anima. C'est la question 1, article 1, Respondeo. Où saint Thomas montre tout d'abord que l'âme... Comment on découvre que l'âme spirituelle est un principe? Alors c'est le texte numéro 1, pardon, dans la deuxième partie. Saint Thomas montre tout d'abord comment l'âme humaine est subsistante, comment on découvre que l'âme humaine est une forme subsistante. Et ensuite, il va montrer comment, étant subsistante, elle peut cependant être forme substantielle du corps, et toute la différence qui existe entre les deux. Alors on va le lire ensemble. Donc, au départ, il y a un petit texte qui présuppose, mais il montre que les âmes ne sont pas simplement des formes comme les autres formes matérielles, c'est-à-dire que l'âme ne dépend pas de son lien, elle n'existe pas seulement à cause de son lien avec, avec le corps. Et alors, ça, ce qui va nous permettre de le déceler, c'est son opération propre. Mais l'âme, l'opération propre de l'âme, l'opération propre de l'âme, c'est ce que saint Thomas appelle intelligere. Il va montrer que c'est une opération qui n'implique aucun organe corporel. En outre, il est impossible qu'un organe corporel communique à son opération propre, comme s'il était l'organe de l'intellection, à la manière dont l'œil est l'organe de la vision. Alors ça, il s'appuie sur toute une réflexion critique de la connaissance, où il montre que finalement l'intelligence, c'est comme il dit tabula rasa, c'est-à-dire qu'elle est en puissance à tout ce qui existe. Et si elle avait un organe, elle ne pourrait plus être en puissance à cet organe, déjà d'une part, et donc elle serait limitée finalement, elle serait plus tabula rasa finalement, elle aurait déjà quelque chose en acte. Donc il faut que l'intelligence, c'est-à-dire cette puissance d'où provient l'opération qu'on constate dans l'homme, c'est-à-dire intelligere, il faut que ça provienne d'une puissance qui soit séparée finalement de tout le conditionnement du corps. C'est ainsi que les philosophes donc posent l'âme. Oui, c'est l'âme ou plutôt l'intelligence, on va dire. La puissance de l'intelligence comme subsistante. Alors ensuite, il va montrer finalement toute l'erreur de Platon qui ayant découvert l'âme comme subsistante, va dire que cette âme à elle-même se suffit à elle-même finalement, qu'elle n'a besoin de rien d'autre. Et saint Thomas va montrer que ce n'est pas juste, que l'âme, elle est donc découverte à partir d'un homme qui pense. C'est pas une âme qui pense, on n'a pas l'expérience d'une forme séparée, on a l'expérience d'un homme qui pose des opérations intellectuelles, et pour cela, cet homme a besoin d'un corps. Il va montrer finalement le lien entre cette âme et ce corps, et que ce corps n'est que l'âme finalement, c'est pas quelque chose qui est créé dans un corps comme finalement quelqu'un qui est dans un vêtement, quoi. C'est-à-dire que le corps, il y a un lien de dépendance radicale entre les deux, et que cette âme, si elle existait en dehors de son corps, c'est-à-dire que l'âme séparée, ce qui est le cas lorsqu'une personne meurt, c'est quelque chose qui va contre la nature de l'âme, parce que l'âme est naturellement unie à son corps. Et ça va être tout l'aspect de la nature qui va apparaître. C'est donc, on va être obligé de regarder, ça va être dans un aspect de philosophie de la nature, qu'il va falloir qu'on considère ce lien finalement entre l'âme et son corps. Parce que l'âme n'est pas quelque chose de séparé, mais c'est une partie de la nature humaine. Ça, c'est très important chez saint Thomas d'Aquin. C'est un petit peu ce qui va fonder toute son argumentation après pour la création de l'âme. Parce que l'âme ne pourra pas être créée dans un corps qui ne convient pas à sa nature. Alors c'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble, en regardant un peu plus ce que c'est que la nature, et notamment en considérant la génération. J'ai quand même souligné que il y a donc deux aspects, deux manières de regarder l'âme. On peut la regarder comme subsistante, et dans ce cas-là, elle ne dépend pas du corps. Et alors là, il n'y aura aucun inconvénient à ce qu'elle soit créée dès le premier instant, ou plus tard, étant donné qu'elle subsiste par elle-même. Donc au niveau de son être, au niveau de son exister, l'âme est radicalement indépendante du corps. Et donc Dieu peut très bien la créer au niveau ontologique, métaphysique, dès le premier instant, il n'y a aucun inconvénient. Mais au niveau de sa nature, on va voir que saint Thomas, à la suite d'Aristote, dit que la nature donne toujours à la réalité naturelle ce qui lui est nécessaire pour réaliser son opération propre. Lorsqu'il va être nécessaire à l'âme pour réaliser l'opération propre à sa nature, c'est-à-dire pour l'intelliger, il va lui falloir un corps. Et pour que ce corps soit le corps qui convienne à sa nature, il va falloir que ce corps soit disposé de telle manière qu'il puisse permettre à l'âme de saisir dans les réalités sensibles les espèces intelligibles. C'est-à-dire qu'il faudra que ce corps, il est donc des sens,
pour pouvoir saisir, atteindre la réalité sensible. Et puis il faudra qu'il ait l'imagination. Parce qu'on voit que l'intelligence saisit les abstraits, finalement, les espèces intelligibles à partir des images. Donc si ce corps n'est pas capable de transmettre à l'âme des images à partir des sensations, ce ne sera pas un corps qui conviendra par nature à l'âme. Donc on a vu que l'âme était une partie de la nature humaine et elle est cette partie que saint Thomas appelle forme substantielle. On va essayer de voir comment, qu'est-ce que c'est que cette distinction entre forme substantielle et puis la matière donc de la forme substantielle, la matière qui lui est propre. Et quels sont les liens entre les deux et comment finalement cette forme commence d'exister dans la matière. C'est-à-dire c'est tout le problème de la génération. Alors, il y a plusieurs passages où saint Thomas montre, je crois que je vous en ai cité un peu, mais oui, dans la deuxième partie, le texte 2, où saint Thomas finalement, en commentant les métaphysiques, va réfuter les positions des anciens philosophes grecs qui disaient que la matière première, c'est-à-dire la matière de toute génération, c'était un des quatre éléments. Alors, il y avait, je crois, Héraclite qui disait que c'était le feu, enfin, il y en a d'autres qui disaient que c'était l'air, d'autres qui disaient que c'était l'eau, et il dit que ces philosophes-là se trompent grossièrement parce qu'ils ont pris la matière comme quelque chose de sensible, alors que la matière, c'est quelque chose, la matière telle qu'il l'entend là, c'est la matière qui correspond à la forme substantielle, c'est pas quelque chose de sensible. C'est quelque chose que seule l'intelligence peut découvrir. Donc, c'est le fruit d'une certaine induction déjà. C'est-à-dire que forme et matière, forme substantielle et matière substantielle, ne sont pas objets d'expérience. On n'a pas l'expérience de l'âme et on n'a pas l'expérience du corps humain. Comme corps humain, on a l'expérience d'un être vivant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer, on n'a pas l'expérience de ces deux choses séparées. Quoi. Alors comment est-ce qu'on va les distinguer? On va s'appuyer là, comme disait Renaud-Marie tout à l'heure, on va s'appuyer beaucoup sur l'analogie de l'art. Alors je vais tout de suite faire une grosse distinction qu'il faudra garder tout le long. C'est que la forme que l'artiste communique, c'est ce que saint Thomas d'Aquin appelle la forme accidentelle. Là, vous avez un texte, c'est le texte numéro 3, où saint Thomas distingue ce que c'est que la forme accidentelle et la forme substantielle. Où il montre que la forme accidentelle donne naître ce qu'il appelle secundum quid. C'est-à-dire qu'elle fait pas l'être absolument, mais elle fait que elle donne à la. Elle, finalement, l'artiste, il utilise une matière qui existe déjà, et il lui donne pas un nouvel être, mais il lui donne d'être tel, il lui donne une nouvelle qualité, une nouvelle quantité. Par exemple, cette table, la matière de cette table n'a pas commencé d'exister à partir du moment où c'est devenu une table. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui rentre actuellement avec une hache qui la détruit, ben le bois ne sera pas détruit, ça restera du bois. Seulement, il va avoir une nouvelle qualité, une nouvelle forme extérieure, accidentelle. Alors que la nature, va donner une forme substantielle. La forme substantielle, c'est celle qui produit l'être, simpliciter, c'est-à-dire absolument. C'est-à-dire qu'elle va faire qu'une réalité qui n'existait pas va commencer d'exister. C'est ce qu'on voit dans toutes les générations humaines. C'est-à-dire quand il y a un homme qui est engendré, c'est pas quelque chose qui est réalisé dans une matière. C'est pas une qualité nouvelle qui est donnée à telle matière, mais c'est vraiment un être nouveau qui est donné, il y a une nouvelle nature qui est donnée. Alors ça, c'est une distinction qu'il faudrait bien garder parce que sinon, on ne saisit plus le caractère analogique de toutes les illustrations que va prendre saint Thomas. Alors, il va saisir que dans toute génération, aussi bien artistique que naturelle, il faut distinguer trois éléments. Il y a d'abord ce à partir de quoi, ex quod,
ce à partir de quoi la réalité ex quod, c'est ex quo ou ex quod? Ex quo. Pardon. Ce à partir de quoi la réalité est faite? Il y a ce qui fait la réalité, ce par quoi la réalité est faite, le quo. Alors ça, c'est la matière. Il y a le quo, c'est l'agent. Et puis il y a ce qui est fait. Alors que Saint Thomas dira que c'est hoc aliquid. Alors ça, il dira que c'est parmi les deux, c'est la seule chose qui mérite d'être appelée un être substantiel. C'est-à-dire c'est la seule chose qui est objet d'expérience, qui vraiment existe comme telle. Alors que la matière, comme matière, n'existe pas, et l'agent, comme agent, n'existe pas. Il existe comme agent à partir du moment où il réalise quelque chose dans la matière. C'est-à-dire que en regardant le mouvement de génération, on voit que c'est un mouvement qui est complexe, et à partir de ce mouvement, on va induire la forme et l'agent. Pardon, la matière et l'agent. Alors, il y a une autre distinction qui est très importante à faire entre l'activité artistique et les productions de la nature, qui suit un peu celle-ci, c'est que donc la génération naturelle, c'est un mouvement qui touche l'être même. C'est-à-dire que quand une forme nouvelle est produite, on a un être nouveau. Or, saint Thomas va dire que un être ne vient pas progressivement à l'être. Il existe ou il n'existe pas, mais ça se fait in instanti. Ça, c'est très important, parce que pour moi, c'est ce qui va montrer que l'âme ne pourra pas être créée dès le premier instant. C'est-à-dire que la génération ne permet aucun devenir. Donc tout le devenir qu'on observe dans la génération qu'au sens large, c'est-à-dire dans la production de nature, ce n'est pas à proprement parler la génération, mais ça regarde la causalité matérielle. Alors c'est ce qu'on va essayer de voir, c'est que finalement, alors là il y a un petit texte que je vais vous citer, où saint Thomas montre que la nature n'est pas un mouvement. Et voilà, c'est le texte numéro 10. Comme le mouvement implique succession, les formes substantielles qui sont indivisibles et ne comportent pas de plus ou de moins ne sont pas produites dans l'être par mouvement, mais par génération, qui est le terme d'un mouvement. On voit donc que la génération, c'est pas un mouvement, mais c'est le terme d'un mouvement. Alors la génération, c'est la production d'une forme substantielle. Donc si l'âme humaine est forme substantielle, elle est créée au terme de tout un devenir, mais elle n'est pas ce devenir. C'est-à-dire qu'il faut que tout ce devenir est présupposé. Alors, on va essayer de voir maintenant, d'expliciter un petit peu qu'est-ce que c'est que la matière. Puisque ce devenir regarde la matière, on va essayer d'analyser un peu ce devenir et de voir à quel moment, finalement, la matière est suffisamment disposée pour recevoir la forme. Et qu'est-ce que c'est que tout cet aspect de disposition ? Je vous ai dit tout à l'heure que l'art, on va toujours garder les deux en parallèle, parce que l'action de l'art est beaucoup plus visible pour nous que celle de la nature, et elle nous permet de comprendre celle de la nature. Alors l'art part d'une matière qui est ce que, en latin, ensactu. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la table, c'est qu'on part d'une réalité qui déjà existe, et on lui donne une forme qui ne la fait pas exister, mais qui fait qu'elle va être telle. C'est-à-dire qu'elle va avoir telle qualité, qu'elle va avoir quatre pieds, qu'elle va avoir un petit tiroir, enfin, etc. Par contre, la nature, alors saint Thomas dira que la nature, elle part de la materia prima. Toute génération touche la materia prima. On va essayer d'expliciter ce que ça veut dire. Et à partir de cette materia prima, elle va lui communiquer une forme.
donc substantiel, qui va faire que cet être va être un être de telle, ayant telle nature. Alors là, vous avez le texte 15. En effet, chacune des choses engendrables. Alors, ça vient du commentaire des métaphysiques, toujours. En effet, chacune des choses engendrables a une matière déterminée à partir de laquelle elle est faite, car la forme doit être proportionnée à la matière. En effet, bien que la materia prima soit en puissance à toutes les formes des éléments, ceux-ci, au moyen de mélanges de diverses proportions, sont en puissance à diverses formes. C'est pourquoi n'importe quoi ne se fait pas à partir de n'importe quoi, sinon en repassant par la materia prima. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ce petit texte. Alors là, on va encore s'appuyer sur... Donc, saint Thomas dit que qu'on ne fait pas n'importe quoi à partir de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on part pas... Là, la nature ne part jamais d'une réalité qui existe, et à partir de ça, lui ajoute une nouvelle perfection. Elle détruit en quelque manière cette réalité d'abord, naturelle. C'est-à-dire qu'il y a une corruption toujours. C'est-à-dire, par exemple, on voit ça dans l'alimentation. Quand on mange une carotte... Quand on mange une carotte, c'est pas notre carotte qui petit à petit, en subissant quelques perfections, devient notre bras. Cette carotte, elle est d'abord détruite, elle est réduite à ce que saint Thomas appelait la materia prima, c'est-à-dire que... Enfin, la materia prima comme telle n'existe jamais, mais elle va être réduite à la forme... Elle est d'abord détruite, elle est réduite à ce que saint Thomas appelait la materia prima, c'est-à-dire que... Enfin, la materia prima comme telle n'existe jamais, mais elle va être réduite à la forme élémentaire, c'est-à-dire qu'elle va être réduite aux quatre éléments. Et à partir des quatre éléments, la nature va reconstruire, en passant par toutes les formes intermédiaires, jusqu'à ce que cette matière puisse recevoir la forme ultime. Alors que l'art, lui, va se servir d'une matière qui est déjà déterminée. L'artiste, il va être, ce qui va limiter son action d'ailleurs, parce qu'il est obligé de partir d'une nature qui lui impose des déterminations. Tandis que la nature, elle part d'une matière qui est complètement indéterminée, et toute l'organisation de la nature finalement va être ordonnée vers la forme finale. Ça, c'est très important de bien le retenir. Parce que c'est par là qu'on va voir que finalement la première cellule est une cellule humaine, hein, grâce à cet ordre. Ensuite, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui soutient tout cet ordre. Alors là, il y a une chose qu'il faut connaître chez saint Thomas et chez Aristote. C'est, je crois que c'est peut-être propre à saint Thomas, mais je ne sais pas si c'est chez Aristote. Où il fait une espèce d'échelle de l'être. C'est-à-dire qu'il fait, il part de la materia prima. Et alors il dit que de la materia... On ne passe pas directement d'une forme substantielle à une plus élevée sans passer par celle qui est intermédiaire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas directement un homme à partir de la terre et puis du feu et de l'eau. Il faut d'abord repasser par tous les degrés d'être. Alors les différents degrés d'être, il va y avoir donc la materia prima, qui est quelque chose d'à part parce qu'elle n'existe pas comme telle. Et ensuite, il y aura les quatre éléments, donc qui seront le point de départ de toute génération naturelle. Ensuite, des quatre éléments, il y aura ce qu'il appelle les corps mixtes. La suite. À partir des corps mixtes. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que chaque fois, ce qu'on appelle la matière, c'est la forme qui est immédiatement inférieure. C'est-à-dire que la matière des quatre éléments, c'est la materia prima. La matière des corps mixtes, c'est les quatre éléments. Ensuite, on a l'âme végétative. Dans la matière, sont les corps mixtes. Et ensuite, l'âme animale. Alors, pareil. Hein. Et puis, en dernier lieu, l'âme spirituelle. Ça, c'est une échelle de toutes les différentes formes substantielles qu'on rencontre dans la nature. Alors, on voit donc qu'il y a une progression. Alors, on peut la comparer avec l'art. Là, s'il y en a qui veulent regarder, c'est le texte 13. C'est le commentaire des métaphysiques aussi, où saint Thomas finalement va montrer que dans l'art, alors il prend le cas de la réalisation d'une maison. Il montre qu'on ne réalise pas une maison avec de la boue, mais que de cette boue, d'abord, on fait des briques. Et que de ces briques, on va construire la maison. Donc, il prend aussi le bois, qu'on va transformer en planche, en vue de la maison aussi. Et de même, alors il va y avoir une analogie, de même que la boue et le bois ne sont pas la matière à proprement parler de la maison, mais que la matière, c'est ce qui est immédiatement avant l'arrivée de la forme finale. De même, dans le cas de la nature, le corps n'est pas formé de la matière prima. Je veux dire, la matière de l'âme spirituelle, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est pas la matière prima, mais c'est celle qui est immédiatement inférieure. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit déjà quelque chose, un corps vivant de vie animale. Alors, comment cela se passait? On va toujours rester dans cette analogie. Qu'est-ce qui va faire que tout au long de la formation de la réalisation artistique, qu'est-ce qui va faire l'unité entre toutes ces différentes formes, donc du bois, alors il peut y en avoir de multiples, mais des plantes et de la maison. On voit que ce qui va unifier toutes ces différentes formes, finalement, ça va être l'idéal de l'artiste. C'est-à-dire que si le bois est transformé en planche, c'est pas en vue des planches. Mais ces planches, il faut qu'elles soient telles en vue de la maison. C'est-à-dire que toutes les formes intermédiaires, même dans le cas de l'art, elles sont orientées vers la fin. C'est-à-dire que les briques en elles-mêmes, elles ont aucune finalité propre, sinon la maison. Alors de même, on va voir que ce qui va correspondre à l'idéal de l'artiste, c'est ce que nous a dit tout à l'heure Frère Renaud-Marie, c'est ce qu'on appelle la virtus. Alors saint Thomas parlera de raison séminale. C'est pas spécifique à l'homme, c'est pour toute production naturelle qui sont l'analogue de l'idéal. Alors il dit que c'est des raisons, qu'on les appelle raisons, non pas parce qu'elles ont un principe intellectuel, mais parce qu'elles proviennent d'une intelligence. Et alors là, il fait le rapport avec Dieu. Ça rejoint un petit peu ce que disait Frère Martin tout à l'heure, cette présence de Dieu dans la nature. Alors là, il y a tout un passage, je ne l'ai pas noté ici, c'est dans le deuxième livre des Sentences, où saint Thomas développe ça, ce lien entre les raisons séminales qui existent dans les réalités naturelles et les idées qui sont en Dieu. Alors il y a une différence qui est assez énorme, c'est que l'idée de l'artiste, elle est extrinsèque à la nature et agit de l'extérieur, c'est-à-dire que c'est de l'extérieur que l'artiste va imposer ses différentes formes. Il ne met pas une idée dans le bois, puis après ça va se faire tout seul. Ce serait bien ça, mais ça ne marche pas. Alors que cette raison séminale, dès le départ de la génération, c'est-à-dire dès qu'il y a eu cette corruption et le départ de la matière prima, cette matière, elle possède en elle un ordre intrinsèque, un principe intrinsèque en fait. Qui va faire qu'elle est naturelle, justement. Et ce principe intrinsèque, dans le cas de l'homme, saint Thomas va dire qu'il a raison d'âme. C'est-à-dire qu'il va entraîner toute cette matière jusqu'à recevoir l'âme humaine. Ce qui fait que cette matière, dès le premier instant, c'est pas simplement une cellule, mais cette cellule, elle est habitée par un principe qui est l'analogue de l'idéa, qui fait qu'il y a comme déjà l'âme spirituelle en puissance dès le premier instant. C'est-à-dire qu'il y a une présence qui est réelle, mais qui est intentionnelle.
Alors ça serait, je sais pas, peut-être que le père pourra le développer, parce que moi j'en suis incapable. Essayer de développer, qu'est-ce que c'est que cette présence intentionnelle qui est dès le premier instant dans la première cellule, et dans la matière, même avant la première cellule, on pourrait dire, mais, puisqu'elle est déjà présente dans la semence, la virtus. Qu'elle provient, saint Thomas montre qu'elle provient donc de ce que nous a dit Renaud-Marie, elle provient de l'âme du Père. Et donc l'âme du, la virtus, c'est l'âme du Père, mais qui agit à l'intérieur d'une matière qui est fournie par la femelle. Alors bon, ça, je laisserai le Père expliciter. Mais alors, comment cette virtus finalement elle va, on va essayer de regarder un petit peu comment elle procède pour amener finalement la matière, pour amener cette matière prima donc de laquelle elle va repartir, pour l'amener jusqu'au terme, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'âme humaine pourra être créée. Alors cette virtus, elle a une puissance qui est, ce que disait Renaud-Marie, qui est qualitative. C'est pas vraiment une puissance efficiente, elle va utiliser différentes puissances. Ce qu'on va essayer de voir, comme des instruments. C'est ce qui va nous expliquer un peu tout le phénomène des formes intermédiaires, qu'on a déjà un peu touché tout à l'heure. Je vais essayer de faire ça de manière schématique. Donc la virtus, d'abord, elle existe dans la semence. Donc cette semence, donc par l'acte conjugal, va rejoindre la matière qui est fournie par la femelle. Cette semence, donc, elle est porteuse de cette détermination active de la virtus. Et elle va se servir finalement des qualités naturelles, des qualités actives naturelles qui sont dans la semence. La semence, c'est donc un corps mixte. C'est donc un corps qui est composé des quatre éléments. Et on voit que chacun des éléments a des qualités actives propres. Donc le feu, il est capable de chauffer, etc. L'eau, enfin bon, il y a toutes les qualités propres des quatre éléments. La virtus, elle va se servir de ces quatre, de la puissance de ces quatre éléments. Elle va les utiliser en s'en servant pour former donc l'âme végétative, c'est-à-dire pour démarrer finalement toute l'action formative. Alors saint Thomas dit que l'âme végétative existe déjà en puissance, en acte premier dans la semence, dans ce qui est fourni par la femelle, et que la virtus vient comme la mettre, lui permettre de démarrer. Alors ça, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais... Alors là, pour essayer de comprendre un peu ce que j'essaie de vous expliquer là, on pourrait faire une analogie avec l'artiste qui se sert du feu. Par exemple, on pourrait prendre le forgeron qui utilise le feu pour réaliser avec le feu quelque chose que le feu par lui-même ne pourrait pas réaliser. C'est-à-dire qu'il va utiliser la propriété du feu qui est de chauffer pour faire fondre le fer et pour donner au fer telle forme. Là, on aura un peu la même chose, c'est que la virtus, elle va utiliser les qualités actives qui sont dans la semence, mais elle va faire que ces qualités vont réaliser un effet qui les dépasse complètement. Un effet substantiel. Parce qu'elles agissent en vertu de l'âme du Père, qui est substantielle, et donc qui peut communiquer un mouvement substantiel. Alors c'est ce que nous expliquait un peu Renaud-Marie tout à l'heure, c'est qu'on peut réaliser avec un instrument quelque chose qui dépasse complètement ce que l'instrument pourrait faire par lui-même. Donc avec le feu, je trouve que c'est assez clair, mais... On peut faire avec du feu des choses que le feu par lui-même ne peut pas faire. Et alors saint Thomas prend souvent les... Il dit, donc ensuite il va y avoir la... Donc cette âme végétative qui va utiliser aussi les... qui va utiliser le feu. Saint Thomas prend toujours ça, il dit que l'âme végétative utilise le feu pour transformer les aliments et les amener, alors toujours sous l'effet de l'âme, les amener à devenir substantiellement le corps dans cette puissance émane. Alors là, donc la virtus est toujours présente. Et donc, mais il y a un autre principe, il y a donc deux principes qui agissent. Il y a cette âme végétative qui agit
qui assimile la nourriture, pour que la virtus puisse, à partir de cette nourriture assimilée, former les différents organes. Et ainsi de suite. Alors la virtus va utiliser ensuite l'âme sensitive. Alors elle va se servir donc des différentes opérations de l'âme sensitive pour amener à leur perfection chacun des organes. Et une fois que ces organes seront suffisamment développés pour qu'un esprit puisse être inféré dedans et avoir des opérations spirituelles, c'est-à-dire au fond avoir une connaissance de ce qui existe, je crois que c'est au niveau... Est-ce que ça se situe au jugement d'existence? Je ne sais pas. Je pense qu'à partir du moment où l'âme, où le corps est suffisamment disposé pour qu'on puisse y mettre une forme, donc une âme substantielle, une âme spirituelle, qui pourra donc poser ses opérations propres, à partir de ce moment-là, on pourra donc dire que l'âme peut être créée. Alors c'est ce moment-là qu'il faudra essayer de définir. Alors là, je crois que la science peut nous aider, parce qu'elle pourra nous dire à partir de quel moment le corps est suffisamment disposé pour atteindre la réalité de manière suffisamment... Parce que saint Thomas fait... Enfin, je ne sais plus exactement où c'est, mais il montre que... Il fait une espèce d'analogie en montrant que les animaux atteignent la réalité d'une manière très imparfaite par rapport à nous. Alors que nous avons une sensation qui est la plus parfaite parmi tous les animaux. Alors ça, il montre que ça vient de la complexion de notre chair humaine. Quoi. Il dit que plus on a une chair tendre, plus notre intelligence peut être développée. Ça, c'est... Parce qu'on saisit dans la réalité beaucoup plus de détermination. Et comme c'est à partir de ces déterminations qu'on va construire qu'on va redécouvrir toutes les espèces intelligibles, il faudra donc qu'on ait une sensibilité qui nous permette d'atteindre un maximum de détermination. Je vais peut-être m'arrêter là et puis voir s'il y a des questions maintenant. Sur un peu ce qu'on a dit. Pas de questions ?
Oui. Le problème, c'est un peu la corruption des différentes âmes.
Oui, alors, saint Thomas dit que chaque fois qu'il y a une génération. Oui. Parce qu'il ne peut pas y avoir. Un être ne peut pas avoir deux sources d'existence, si tu veux.
Cette âme, elle est déjà une forme substantielle.
Elle est une forme substantielle.
Analogiquement.
Oui, alors il y a une analogie.
Bien sûr, parce que c'est un autre temps qu'on fait un autre.
Mais alors, il y a un petit passage qui... Enfin, saint Thomas montre qu'à un moment on développe ce petit passage, j'arrive pas à le retrouver là, mais... où il dit que les... Il lui parle de ces formes intermédiaires en disant qu'elles n'ont pas une espèce complète, mais qu'elles sont en vue d'une espèce. C'est-à-dire que c'est pas du tout gênant qu'elles soient détruites. Elles sont là finalement pour permettre à la matière d'atteindre la disposition ultime. Elles sont comme instruments finalement un petit peu. Elles n'ont pas une espèce complète. C'est-à-dire qu'elles sont des formes très imparfaites. C'est-à-dire que c'est quand même analogiquement âme, je crois. Mais c'est âme en tant que ça permet de répondre de l'immanence de la vie.
Elles sont puissantes en fait, presque comme.
Elles ont un certain acte quand même, parce qu'elles sont source d'opérations vitales. Elles permettent de répondre de l'assimilation. Mais en même temps, elles sont pas faites pour durer, elles sont faites pour... Elles sont donc humaines, parce qu'elles sont en vue du corps humain, elles sont faites pour préparer ce corps humain à recevoir l'âme. Oui.
Si on regarde bien, la virtus, c'est la seule chose avec la matière qui demeure du début à la fin.
Oui, oui.
Mais c'est quoi c'est pas un pillage, c'est quoi?
Cette virtus, c'est comme le mouvement qui est l'analogie qui fait le mieux comprendre. C'est quand on jette une pierre, dans cette pierre, il y a un mouvement qui l'anime. Même si nous, on s'en va et que la pierre, elle va casser le carreau, c'est quand même nous qui allons casser le carreau, c'est pas la pierre par elle-même. Le mouvement qui anime cette pierre, finalement, c'est quelque chose de réel, même si on ne peut pas le saisir. La science ne pourra jamais le saisir, ce mouvement. Ouais. C'est au niveau qualitatif. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui est dans la pierre, mais la science ne pourra pas saisir sa cause. Mais de fait, cette expérience de la pierre, alors là c'est un peu la même chose. L'âme du Père, en engendrant, met dans la semence un mouvement, mais alors qui n'est pas simplement un mouvement local, qui est un mouvement de génération, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui va avoir un effet substantiel, et ce mouvement va exister à travers toutes ces différentes formes différentes. Mais c'est pas par ce mouvement que ces formes vont exister. C'est-à-dire que ce mouvement, c'est pas lui qui rend compte de l'exister de cette réalité. Cette réalité, il faut qu'elle ait une forme substantielle. Il va rendre compte de son mouvement propre, de son mouvement qui va l'acheminer jusqu'au terme. C'est-à-dire que c'est quelque chose de réel, mais c'est uniquement qualitatif, donc on peut le saisir, on peut l'induire qu'à partir de ce mouvement. Il n'y a que l'intelligence qui peut le saisir.
Apparition de l'âme spirituelle. Que devient la virtus? On dit qu'elle devient une propriété. Et quel sera le rôle de cette propriété quand va apparaître l'âme?
Et bien justement, de permettre de continuer, de maintenir, c'est ce qu'on voyait un petit peu hier soir avec le regard de la science, de maintenir tout cet aspect de l'organisation du corps, de l'unité, oui. Il disait que dès qu'il y avait mort, il disait que pour le biologiste, quand il y avait mort, c'était quand justement il n'y avait plus cette organisation intrinsèque à l'organisme humain. Et au fond, on pourrait dire que ça va être l'âme qui va assurer ça, donc ça ne va plus être l'âme du Père, la puissance qui provient de l'âme du Père, qui va organiser, c'est plus ton Père actuellement qui organise ton corps. Mais c'est une puissance qui provient de ton âme.
L'âme en elle-même assume, en tant que forme du corps, peut déjà assumer cette unité complexe.
Attends, pardon.
L'âme, en tant qu'elle informe le corps, et dans le corps son intimité, peut déjà assumer la complexité du corps sans faire recourir à...
Oui, mais c'est pour maintenir cet ordre qu'il y a dans le corps, pour qu'il reste ce qu'il est, il faut qu'il y ait quelque chose qui maintienne, parce que... T'es toujours, tu vois, il y a toujours destruction et création, enfin, et formation. Il y a des cellules qui se détruisent, d'autres qui se reforment.
Il faut deux causes d'unité, c'est ça qu'il veut dire.
Ah non, parce que c'est pas une cause d'unité, c'est au niveau de la formation. Ça rend pas compte, c'est pas au niveau de l'être finalement.
L'âme rend compte de l'unité en tant que principe, mais pas en tant que puissance.
Mais t'es obligé de poser des puissances, toujours. Et au fond, ça devient une puissance de l'âme.
C'est quelle puissance alors, cette virtus?
Là, c'est la virtus. Saint Thomas dit que cette virtus formativa devient regitiva corporis. Mm. C'est-à-dire qu'elle va exercer comme un gouvernement sur le corps, elle va maintenir cet ordre comme puissance. Mais elle est complètement relative à l'âme. C'est-à-dire que c'est comme si elle passe de l'âme du générateur à l'âme de l'individu engendré.
Et quel sera alors le rapport par rapport aux autres puissances?
Le rapport?
Quel sera le rapport de la virtus par rapport aux autres puissances de l'âme?
C'est la manière des puissances.
Non.
La beauté de la matière qu'il faut la comprendre. Je crois. Parce que les puissances proviennent de l'âme. Oui. C'est ça qui est très très difficile, mais c'est comme un fil conducteur. Comme ça. Ce qui donne le dynamisme profond. Et donc, qui fait qu'on ne peut pas s'arrêter tant que l'âme n'est pas créée. Quand l'âme est créée, elle récupère ce dynamisme pour elle. Ça qui est très curieux. Je ne sais pas si je m'explique suffisamment. Mais c'est beaucoup plus du côté de la continuité qu'il faut comprendre cette virtus, et non pas du côté de l'unité. C'est ce que vous dites, Thomas.
Et on voit que la formation se continue après, parce que je crois que jusqu'à 13 ans, le système nerveux se perfectionne, tout ça. Mais là, ça va être l'âme.
C'est l'âme qui le fait, oui. Et la virtus aide à ça.
Oui, oui. Il y a un moment où il dit qu'elle est détruite, et puis un autre moment où il dit qu'elle a des propriétés. Quoi, c'est ça.
Elle a une autonomie.
Je crois que c'est autre, parce que c'est plus, il y a un aspect qualitatif qui n'est pas dans la croissance, je crois. C'est pas la croissance, hein, à proprement parler.
Non, non.
C'est plus au qualitatif.
Beaucoup plus. C'est du côté de la complexité organique. Et l'apparition de nouveaux organes.
Il participe à ce de la mère, au fond, au niveau de cette virtus.
Raison de la faiblesse organique.
Dans l'organisation de l'embryon.
Non, la mère serait plus du côté. Elle apporte la matière, et puis il y a tout l'aspect du milieu. Alors je pense que le père en parlera cet après-midi, mais elle donne à cet embryon un milieu qui lui permet de se développer. C'est un peu ce qu'on voyait hier soir, il montrait toute cette importance de l'utérus qui a une formation.
Est-ce qu'on peut réduire le rôle de la mère à ça?
Quoi? Mais, au fond, quand on regarde bien, c'est pas du tout minimiser le rôle de la mère.
Parce que c'est ce qui est le plus important.
C'est ce qui est le plus important, oui.
Parce que c'est du côté matériel.
C'est ce qui va demeurer dans l'être créé. Ce qui demeure en toi, c'est ta matière, la virtus, elle ne demeure plus du tout. Tu vois.
La formation du corps reste du côté matériel. Or, c'est justement la mère qui est de ce côté-là. Le père est du côté beaucoup plus de la virtus dynamique. Et donc, il disparaît.
Mais au point de vue biologique, c'est difficile à accepter, puisque l'ovule comme le spermatozoïde sont aussi vivants l'un que l'autre.
Mais oui, mais ça c'est descriptif. On ne touche pas
du tout. Je crois qu'il faudra distinguer très nettement. Ce sera là le point de vue très délicat. Ce que le savant dit du réel et ce que saint Thomas dit du réel. Autrement dit, la différence entre l'aspect descriptif du savant et l'aspect organique du philosophe. C'est ça qui est difficile, je crois. Le savant ne dit rien du jugement d'existence. Et le philosophe et le théologien impliquent tout le temps le jugement d'existence.
Et ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi est-ce que ce serait le père ?
Pourquoi non, faites attention, je crois qu'il ne faut pas trop s'embarquer là-dessus, parce qu'il y a équivoque là-dessus. Quand Aristote parle de cause matérielle et cause formelle, c'est très analogique. Vous voyez ? Donc, la cause matérielle, c'est la cause la plus descriptive. Puisque la disposition se prend ex parte matérielle. Donc, c'est celle qui prend la plus grande importance au niveau scientifique. Le savant, avant tout, décrit. Et ne touche pas les causes. Proprement. Donc, il décrit. Et donc, du côté description, c'est l'aspect matériel, l'aspect maternel qui prend la plus grande place. La virtus, du côté mâle, disparaît. On ne la saisit pas.
Non, enfin si, le biologie, enfin il ne saisit pas la virtus.
Saisit les effets.
Il la met autant dans le mâle que dans la femelle.
Non, c'est pas la virtus.
Non, mais il dit.
C'est la description.
Il va dire tous, mais il dit l'activité est autant d'un côté que de
l'autre. Oui, mais c'est forcé au point de vue
descriptif. Ce que je veux savoir, c'est comment philosophiquement est-ce qu'on peut reprendre.
Mais oui, tout à fait, entièrement. Parce que du côté descriptif, c'est aussi bien du côté de la matière que du côté actif.
Oui, mais.
Et je ne peux pas distinguer.
Oui, mais comment est-ce que je fais pour distinguer alors ?
Je ne peux pas.
Et philosophiquement ?
Philosophiquement, oui.
Et pourquoi plus ?
Parce que le philosophe a une vision beaucoup plus complète.
Oui, c'est peut-être ça qui nous a manqué, peut-être dans l'exposé, on aurait aimé savoir.
Non, parce que ce qu'il fait ici, c'est de nous rappeler ce que nous dit saint Thomas. Bon, saint Thomas parle en théologien. Aristote parle en philosophe, ce qu'il a souligné. Bon, alors, on essaie de comprendre la position d'Aristote, la position de saint Thomas, avant que la science ne nous donne des quantités de précision. Alors, le point de vue, ce que vous soulevez comme problème, je suis tout à fait d'accord, c'est le gros problème. Comment cette vision peut-elle assumer en respectant la description scientifique ? Pour moi, c'est ça le problème. Oui, c'est le troisième problème. Je crois qu'il fallait d'abord regarder Aristote, saint Thomas. On a vu la description scientifique hier, c'était très bien de la voir avant. On va la reprendre maintenant. Comment cette vision-là respecte-t-elle ces différents aspects descriptifs du savant ? Je crois que c'est ça votre question. Je suis d'accord là.
Je vois pour faire bon.
On l'a pas encore fait.
Comment
on va le faire.
S'orienter plus vers l'homme que vers la femme pour le don de la virtus.
Non mais faisons attention. Vous anticipez là. Ce qu'il montre, c'est ce qu'Aristote et saint Thomas disent. Maintenant, la question, c'est de savoir si ce que le savant nous dit nous oblige de purifier cette position qui peut impliquer certaines choses imaginatives.
D'accord.
Hein, vous êtes bien, c'est bien ça.
Tout à fait. Ce qui est peut-être intéressant aussi dans la question, c'est pourquoi Aristote et saint Thomas placent la virtus dans la semence.
Mais en raison de l'analogie de l'art, il l'a dit, oui. Il n'a cessé de le dire.
Bien sûr, mais dans cette analogie, comme vous savez qu'une analogie, elle porte
oui,
sur 15
c'est ans, l'analogie.
On peut, j'allais dire, cette analogie, on peut la placer un peu...
Comment ? Vous pouvez pas. Non. Aristote, il y a une unité d'analyse qui se fait entre le point de vue artistique, le point de vue de la nature et le point de vue vital. Alors toute la question, c'est de savoir si dans cette analogie, il n'y a pas un aspect imaginatif et que l'analogie n'est pas assez purifiée. C'est ça la question. Je crois que l'analogie reste vraie. Vous voyez ? Parce que nous devons respecter ce qui pour nous est plus connaissable et moins connaissable. Oui. Ce qui est le plus connaissable pour nous, c'est la connaissance artistique, qui est humaine. Puis, il y a la vie, la nature vivante. Puis, il y a l'aspect métaphysique de la substance. Puis, il y a la vision de sagesse. Alors, je crois que c'est tous ces aspects-là qui sont un peu bloqués dans la perspective de saint Thomas, parce qu'il est théologien, et que nous, au plan philosophique, on doit reprendre à différents niveaux. Oui, je crois que c'est notre rôle.
Mais est-ce que saint Thomas pourrait justifier avec cette vision le mystère de l'Immaculée Conception ?
Ah, mais c'est autre chose. Avec cette vision-là, oui. Mais au contraire, il la respecte tout à fait. Puisqu'il dit que l'Esprit Saint joue le rôle mâle.
Parce que vous dites, vous justifiez l'existence de l'âme spirituelle dès la conception ou en théologie.
Oui, mais alors là, c'est toute la question de savoir quand il y a conception. Voilà, c'est ce qu'on disait hier. Quand y a-t-il conception, c'est quand l'âme est présente. Oui. Donc le premier moment de la conception, qu'est-ce que vous appelez par conception? Est-ce que le devenir, conception au sens fort pour saint Thomas, c'est quand la forme est présente. Il fait l'analogie dans le compendium entre le concept et l'âme. Donc la conception,
aussi,
quoi ?
On peut le dire aussi biologiquement, j'essaierai de le dire.
Tout à fait. Oui, tant que vous êtes dans le devenir, il n'y a pas conception. Vous êtes dans un devenir qui prépare la conception. Oui, ça c'est pas gênant. Tout simplement une interprétation plus rigoureuse de ce qu'est la conception. Oui.
Il y a un moment où l'analogie sur l'art aussi est très importante et qu'il y a des répercussions immédiates sur le moment de l'animation. C'est qu'en fait, comme on ne peut pas directement donner la forme ultime, ça présuppose une élaboration de la matière, de la même manière, la forme substantielle naturelle ne peut pas être communiquée immédiatement. Alors est-ce que saint Thomas a d'autres arguments que cela ?
C'est, voilà,
c'est vraiment la clé de voûte sur...
Je crois que c'est la clé de voûte.
C'est bon.
Je crois. Il me semble que là, saint Thomas est très dépendant de la perspective philosophique d'Aristote. Et dépendant, qui est légitime. Aristote est celui qui l'aide. Toute la philosophie de la nature d'Aristote ne cesse de comprendre des analogies avec l'art. C'est la grande critique que Robin fait à Aristote, qu'on a répété après. C'est Robin qui est le premier qui l'a dit, en disant cette vision n'est pas une vision proprement de philosophie de la nature, puisqu'elle est commandée par le point de vue de l'art. Or, au fond, non, vous entendez ou vous n'entendez pas? Bon, si ça va, si ça entend. Parce que moi, je suis toujours obligé de dépendre de l'art. C'est ça que je défends saint Thomas. Cette vision étant analogique et non pas univoque, elle est légitime. Parce que je connais mieux l'art que la nature.
Alors est-ce que sur ce point, il ne faudrait pas dire que dans la transmission naturelle d'une forme, on peut concevoir effectivement que la transmission de la forme elle-même à la nature ne soit pas immédiate, mais la transmission de l'idéa, est-ce qu'elle n'est pas dès le point de départ? Donc est-ce que sur un point formel, il n'y aurait pas une plénitude de communication dès le point de départ, par un biais intentionnel, donc il y aurait une intentionnalité biologique, mais qu'au niveau de l'animation proprement dite, effectivement, il y aurait un devenir, et donc on pourrait concevoir une succession.
Oui, mais alors, ce n'est plus une forme substantielle qui est dans son indivisibilité touche la matière prima et organise tout dans l'unité.
Elle est intentionnelle, mais elle a un caractère quand même.
Oui, mais ça, vous le dites, hein. Je ne peux pas l'expérimenter.
Saint Thomas dit aussi, je crois.
Quoi ?
Saint Thomas dit que c'était un effet substantiel et par la même, elle a une intentionnalité qui est...
Oui, mais lui, il dit des points de départ.
Oui, c'est-à-dire qu'il dit que dès le point de départ, par la virtus, l'âme spirituelle, elle a en puissance.
De même que dans...
Je dis pas spirituel, ça ne concernerait que végétatif et sensible.
Ah oui, d'accord.
Non, ça regarde le père, ce que vous dites là, tandis que lui, il n'a pas voix de l'âme. Mais il n'y a aucune raison de dire.
Alors, du point de vue scientifique, est-ce que justement, le génome n'est pas, ne traduit pas, du point de vue positif, hein, observable, cette intentionnalité
substantielle? Est-ce qu'il ne traduit pas la virtus?
Oui, mais il a un caractère déterminant.
Mais oui, mais la virtus a un caractère déterminant. Comme le dire.
Parce que la différence entre la virtus et le génome, c'est que le génome on regarde jusqu'à sa mort, tandis que la virtus disparaît.
Ah non, parce qu'elle demeure. Virtus, dans le sens qu'elle demeure.
Que l'effet que produisait la virtus, ça va être l'âme qui va produire. Mais l'effet dans la matière demeure le même, que tu peux observer.
Bah, c'est la propriété, c'est la disposition qui devient propriété, et qui explique l'unité. Nous cherchons, hein, personne d'entre nous, c'est d'avance ce qu'il va dire comme conclusion. Dans la vision béatifique, on verra que c'est complètement trompé. Et nous avons cherché, oui.
Si le génome est une analogie avec la virtus, on sait aujourd'hui, je crois, que le génotype d'un enfant, c'est moitié celui de la mère, moitié celui du père. Alors comment on peut dire que la virtus est pas...
Parce que la virtus, faisons attention, n'existe jamais comme virtus sans l'aspect maternel. Mais nous sommes en face d'une analyse quand on parle de la virtus. On n'est pas en face de la réalité. Tandis que le savant regarde toujours la réalité. Le philosophe ici étudie en termes techniques le quoi, et le savant n'étudie que le quad. Et il décrit le quad. Vous voyez ? Tout ça, je disais. Au point de vue descriptif, c'est toujours du côté de la cause matérielle. Alors, c'est pas, nous sommes gênés, nous, par ces expressions actifs et passifs, parce que nous avons alors l'impression qu'on retire quelque chose à la mère. Alors que c'est juste l'inverse. Aristote dit en métaphysique que lorsqu'il s'agit de devenir, l'aspect puissance est antérieur à l'acte. Donc la mère est antérieure. Et alors le principal, c'est exactement ce que dit le savant. Parce que nous ne regardons pas assez le devenir. Et lorsqu'il s'agit de l'acte, c'est Dieu. Donc le père et la mère n'ont plus qu'à regarder Dieu. Oui. Mais quand il s'agit du devenir, cette phrase très importante de la métaphysique, la puissance, l'être en puissance, c'est-à-dire la matière, est antérieure à l'acte. Alors, tout est renversé.
La puissance est antérieure dans l'individu.
Dans l'individu, il s'agit d'un individu.
Uniquement l'individu.
Ah, il s'agit de l'individu.
Mais la virtus, chez saint Thomas, ne vient pas de l'individu.
Mais non.
Et pourtant, elle joue le rôle d'acte.
Et non, et bien, elle joue le rôle d'acte au point de vue dynamisme, mais pas au point de vue constitutif.
C'est ça.
Mais je crois que c'est très très important, parce que ça, je dis, ça donne l'intelligence analogique du point de vue acte et puissance. Et c'est inversé quand il s'agit de l'aspect génétique. Or, nous regardons l'aspect génétique. Alors, évidemment, je comprends très bien cette question du père Henri. C'est que, y aurait-il une autre analogie? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut une autre analogie. C'est celle du vivant. Alors, au fond, elle est toujours présente, mais elle n'est pas explicite. Parce que le vivant, justement, se meut. Et c'est cette analogie du vivant que nous avons. Alors vous l'avez explicité plusieurs fois, vous y avez touché quand même, mais on y touche, pas plus. Alors qu'il faudrait peut-être la mettre beaucoup plus en lumière. Et je crois que si on la mettait plus en lumière, on pourrait rejoindre davantage l'aspect descriptif du biologiste qui ne regarde que le vivant. voyez, on a un peu cette impression, quand on regarde comme ça, quand on écoute ça, et qu'on a dans sa tête tout ce que... On a un peu cette impression. Aristote, il a énormément l'analogie de l'artiste, et que d'autre part, on regarde l'aspect génétique du vivant. Alors, l'un, on regarde que ça, et l'autre, il est obnubilé, si j'ose dire, par le point de vue artistique. Alors, si, hein, qu'est-ce qu'il va gagner? Parce qu'il y a les deux analogies. Il s'agit de comprendre quelque chose qui échappe à notre expérience immédiate. Nous n'avons pas l'expérience immédiate du développement de l'embryon. Nous constatons. Et nous voudrions bien, c'est pour ça qu'on voudrait tellement pouvoir le regarder in vitro, là. Très bien. Or, au fond, il nous échappe. Donc, on est obligé de se servir de deux analogies, constamment. Alors, l'analogie de l'artiste, l'idéa, la virtus. Il faut comprendre la virtus analogiquement. Et dès qu'on en parle, on ne comprend plus analogiquement. Et toutes les questions qui viennent là-dessus. Parce que c'est analogiquement. Donc c'est toujours en référence, en respectant ce qu'il y a d'unique dans cette virtus. Et puis, l'aspect descriptif du savant, qui ne peut donner que cela, mais qui est très important. Et au fond, la réalité, elle implique les deux, tout le temps. Et elle implique en plus cette vision de sagesse, création de l'art, qui fait que don prend un caractère unique. La procréation de l'homme, de l'enfant, est unique. Elle est unique, en ce sens qu'il y a intervention de Dieu, et cette intervention de Dieu qui est au terme, j'ai dit au terme, hein, vous voyez bien, dans l'ordre de la nature, pas dans l'ordre du temps, qui est au terme, modifie tout. Puisque tout ce devenir est en vue de ce terme. Et que ce terme nous échappe à la science et à la philosophie. Dieu crée l'âme. Le philosophe peut l'affirmer, le croyant l'affirme. Et que cette création de l'âme fait que la procréation l'embryon humain, de l'être humain, a quelque chose d'unique à chaque moment. Je crois que c'est ça qu'on doit respecter tout le temps, tout le temps. Et ce qui fait qu'il faut accepter philosophiquement et scientifiquement, si le savant respecte le point de vue de la foi, ou si le savant respecte l'intervention philosophique qui dit qu'il y a création de l'âme. Parce que le savant ne peut pas le dire. Le savant ne peut pas parler de l'âme comme savant. Il peut dire l'homme, je peux en dire quelque chose, un aspect matériel du développement de son corps, mais je ne peux pas expliquer. Le Seigneur est avec vous.